Bienvenue dans ce nouveau numéro du Labomatique, où il sera question aujourd'hui de la piézoélectricité. Mais au fait, c'est quoi la piézoélectricité ? Il s'agit de la propriété qu'ont certains cristaux dépourvus de centre de symétrie de produire de l'électricité lorsqu'ils sont soumis à des compressions ou des tractions. En 1885, les frères Curie font construire un instrument utilisant cette propriété, la balance à quartz piézoélectrique. Avec Marie Curie, Pierre va l'utiliser en 1898 pour mesurer la radioactivité des sels d'uranium et ainsi découvrir le radium et le polonium. L'expérience a été réalisée récemment, le mardi 10 novembre 2015, sur les appareils conservés à l'université Rennes 1 sur le campus de Beaulieu, et s'est déroulée en présence de Madame Hélène Langevin-Joliot et de Monsieur Pierre Joliot, enfant de Frédéric et Irène Joliot-Curie, et petits-enfants de Pierre et Marie Curie. Cette expérience a permis de mesurer à l'œil nu l'intensité de la radioactivité d'un échantillon donné. Le musée de géologie situé sur le campus de Beaulieu nous ouvre ses portes afin de rééditer l'expérience au micro de Radio Campus Rennes.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
Je m'appelle Dominique Bernard, je suis maître de conférence de physique à l'Université de Rennes et je m'occupe depuis une bonne dizaine d'années de la conservation et la valorisation des instruments scientifiques de l'Université, notamment la collection ancienne que j'ai retrouvée avec mon collègue Jean-Paul Taché et que j'ai reconstituée. Et en fait, on a aminié l'instrument scientifique du 19e siècle. On s'intéresse aussi au patrimoine scientifique contemporain et on a à peu près 2000 objets du scientifique contemporain, qui fait que l'Université de Rennes est une des plus belles collections universitaires en matière d'instruments en France, une des plus belles. Alors, nous sommes dans le musée de géologie, donc la magnifique galerie de géologie que tout le monde peut venir voir, en particulier dans la journée, hein, y compris donc les étudiants. C'est au bâtiment 5 sur le campus de Beaulieu. Et dans cette galerie, les géologues ont eu la gentillesse de nous prêter un espace pour installer et mettre en route une expérience historique de la mesure de radioactivité par Pierre et Marie Curie.
Juste à l'instant, vous venez d'ouvrir une grande cage en verre dans laquelle se trouve
un des instruments, ça s'appelle le quartz piézoélectrique, c'est une balance à quartz. C'est un des instruments conçus par Pierre et Marie Curie que nous avons retrouvé, en sachant qu'il y en a plusieurs, nous en avons trouvé 5 autres ici dans les collections. Donc ce sont des appareils, alors ce ne sont pas les prototypes ont été soit à l'école supérieure de chimie où les Curie ont fait leurs premières expériences, soit au musée Curie, mais nous avons 6 appareils qui ont été conçus par Pierre et Jacques Curie. Jacques Curie est le frère aîné de Pierre Curie que presque personne ne connaît, mais qui a beaucoup conçu d'instruments scientifiques.
Dans quel but cet instrument a-t-il été utilisé à l'époque?
Alors cet instrument, en fait, est né de la découverte de Pierre et Jacques Curie d'un phénomène qui s'appelle la piézoélectricité. La piézoélectricité, c'est quoi? C'est un phénomène physique constaté dans des cristaux qui n'ont pas de centre de symétrie, donc des cristaux tout à fait particuliers, qui font que quand on applique une contrainte sur le cristal, une contrainte, ça peut être une force, ça peut être une pression, eh bien, il y a des charges électriques qui apparaissent. Et ces charges électriques sont proportionnelles à la force appliquée. Les anciens allumeurs de gaz, hein, sur lesquels on faisait un clic-clic, là, eh bien, ce sont des cristaux de quartz. Alors, les quartz sont aussi utilisés dans les montres à quartz, mais là, c'est l'effet piézoélectrique inverse, c'est-à-dire qu'on envoie avec une pile, on met une tension sur le cristal de quartz, et il y a une vibration. Donc cet effet piézoélectrique a donc été découvert par Pierre et Jacques Curie, et donc ils l'ont traité, ils l'ont bien décrit. Et quand donc ça c'est dans les années 1880 à peu près, 85. Et plus tard, quand avec Marie Curie ils ont commencé à s'intéresser à la radioactivité, eh bien ils ont utilisé ce cristal de quartz pour faire des mesures de courant électrique. C'est un peu la manip que l'on peut présenter. Hein. Mm-hmm. Donc l'idée de base de Pierre et Marie Curie cette fois-ci, c'était que la radioactivité qui avait été mise en évidence par Becquerel, c'était des rayonnements ionisants et donc il y avait des charges électriques qui étaient émises. Alors des charges électriques très 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 faibles. Hein. Là, on va avoir des courants électriques, alors pour les scientifiques, 10-12 ampères, c'est-à-dire que c'est des courants extrêmement faibles. C'est plus faible qu'une décharge, que quand vous frottez votre vêtement avec, vous observez des décharges électriques, ou quand vous sortez d'une voiture avec des décharges électriques, eh bien les courants que l'on va mesurer, c'est encore beaucoup plus faible. Donc l'hypothèse était que le rayonnement radioactif, c'était une émission donc des rayonnements ionisants, de charges électriques, et qu'il fallait pouvoir les mesurer. Avec cette hypothèse, eh bien, les Curie ont construit une expérience dans laquelle il y a 3 appareils. Alors là, à la radio, on ne va pas les voir, mais vous viendrez les voir en direct.
On peut les décrire.
On peut les décrire. Alors, le premier appareil, on va se déplacer. Le premier appareil, c'est une boîte, un condensateur, qu'on appelle une chambre d'ionisation. Donc deux plaques métalliques. Entre ces plaques, on applique le cristal radioactif. Là, on a pris un cristal d'autunite. On a été voir les géologues.
Alors, c'est une forme assez difficile à décrire. Comme vous le disiez, il y a deux objets cylindriques entre lesquels est placé...
C'est un minéral, ça s'appelle l'autunite. C'est un oxyde d'uranium qu'on a emprunté aux géologues. Donc, c'est un produit qui est radioactif.
Il a une couleur donc, cuivrée, jaune phosphorescente, très jolie.
Sur la nuit. Hein. Et sur ce cristal, on va lui appliquer une tension négative, très fortement négative, parce que ce cristal, en fait, étant radioactif, il émet ce qu'on appelle des électrons. Et les électrons, pour les récupérer, on va leur envoyer une tension négative et on va les récupérer avec une électrode sphérique. Et donc, ce produit radioactif va émettre un courant électrique. Très faible. Donc le premier appareil. Pour mesurer ce courant électrique, Pierre et Jacques Curie ont utilisé un appareil extrêmement sensible qui s'appelle un électromètre. Cet électromètre n'est pas original, il est plus récent, il date de 1910. On a un électromètre original dans nos vitrines, on n'a pas pu le réparer, qui date d'avant 1900. Donc cet électromètre va mesurer un courant très faible. Comment ? Vous avez un fil avec un miroir, et quand le courant électrique est appliqué à ce fil, il y a une tension, bien sûr, qui est mise dessus, eh bien, le fil va tourner, et le miroir va tourner. Et sur ce miroir, on envoie un faisceau. Alors, nous, on utilise un laser, parce que c'est bien pratique, mais Pierre et Marie Curie utilisaient des lampes, ils travaillaient dans le noir, dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, le courant électrique, en fait, va produire une déviation du miroir, une rotation du miroir, et on va observer donc un spot lumineux sur une échelle. Donc, le courant électrique va être lu sur une échelle, à l'œil. Donc ça, c'est le second appareil. Ben, écoutez, si vous voulez, on va faire cette mesure déjà directe. Hein. Alors, on est par là. Donc là, actuellement... je n'ai pas encore fermé le circuit dans l'expérience, hein, et je vais fermer le circuit. Alors pour l'instant, le cristal de quartz, on n'en parle pas, hein, il ne fonctionne pas. Donc là, je ferme le circuit. Qu'est-ce que je constate sur l'échelle ? Eh bien, j'ai une déviation. Alors, quand tout se passe bien, la déviation bouge avec le temps.
Sur cette échelle graduée de 0 à 50, nous avons un point lumineux rouge qui se déplace. Et nous sommes actuellement entre 23 et 24. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors ça signifie qu'il y a en permanence un courant électrique qui est émis, la radioactivité, le produit reste radioactif extrêmement longtemps, et il y a un courant électrique qui est émis dû à cette radioactivité du matériau. Alors la première mesure peut se faire directement sur une échelle. Et Pierre et Marie Curie, qui étaient extrêmement soigneux, souhaitaient des mesures à moins du pourcent près. Et donc, avec cette méthode directe, ils avaient 2 ou 3%, enfin bon, des choses qui nous auraient sûrement contentés, mais ils se sont dit, non, on peut avoir mieux que ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, on va avoir pour ça l'effet piézoélectrique du quartz. Alors, là, j'ouvre la balance à quartz. Alors, la balance, quand on regarde, c'est un cylindre. Au départ, vu de l'extérieur, c'est un cylindre en laiton, sur lequel c'est écrit quartz piézoélectrique. Alors, Société Centrale de Produits Chimiques, ça, c'était la start-up de Pierre et Marie Curie. Est-ce qu'on a l'impression que les start-up sont des concepts tout nouveaux? Non, non. Avant 1900, ils avaient déjà créé une boîte qui diffusait leurs expériences. Alors, quartz numéro 2, un appareil extrêmement ancien qui date d'avant 1900.
On arrive même à peine à lire ce qui est marqué.
Oui.
Donc, on peut encore lire.
Rue des Écoles, 44, ça, c'est l'adresse à Paris. Quand on décrit l'appareil maintenant, le quartz, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous avez un espèce de siège avec une balance en bas sur laquelle on va pouvoir mettre des poids, un support sur lequel on peut mettre des poids. Mais la partie importante, c'est un cristal de quartz. Donc c'est une espèce de lamelle métallique, verticale, tenue fixe à un bout et sur lequel de l'autre côté, on va pouvoir tirer, appliquer une force avec un poids, d'où le nom de balance. Et puis, quand on met un poids sur ce quartz, on a dit l'effet piézoélectrique va provoquer un courant électrique proportionnel. Et ce courant électrique, on le récupère sur les faces de la lame. Hein. Il y a deux petits fils électriques qui vont récupérer ce courant. Et c'est lui qu'on va appliquer à l'électromètre dont on a parlé tout à l'heure pour compenser le courant électrique dû à la radioactivité. Voyez ? Donc c'est une espèce de balance, là aussi. Le produit radioactif émet des électrons d'un côté, et pour compenser ce courant, une espèce de méthode de zéro, eh bien, on va appliquer un courant électrique dû au quartz que l'on connaît parfaitement. Et on va pouvoir en déduire le courant électrique émis par le produit radioactif, la radioactivité du matériau.
Perfect painter.
peut essayer de reprendre l'expérience. Alors, ce n'est pas une manip presse-bouton, hein, loin après. C'est aussi l'intérêt de l'expérience, hein, c'est de montrer les difficultés de cette expérience. En géologie, on a des conditions d'humidité assez importantes, mais pensez que Pierre et Marie Curie travaillaient dans le noir, dans un hangar à l'École supérieure de chimie de Paris, dans des conditions extrêmement difficiles, fin du 19e siècle, et puis après début du 20e, ce qui a quand même conduit, d'une part, ils ont eu un prix Nobel de physique avec Becquerel, hein, tous les trois, un premier prix Nobel de physique, et Marie Curie, ensuite, qui a découvert le polonium et le radium, a eu un prix Nobel de chimie, un peu plus tard, quelques années plus tard.
On a eu deux, d'ailleurs.
On a eu deux, donc c'est assez rare.
Hein.
C'est extrêmement rare, je crois qu'il y a deux personnes qui ont eu des prix Nobel, et c'est la seule femme en avoir eu deux. Hein. Alors, donc, nous, l'expérience, ce qui est intéressant, c'est de montrer, d'une part, l'expérience proprement dit, montrer qu'on peut utiliser des appareils anciens pour faire... ce genre de manip, et puis tout le contexte historique, l'application de la radioactivité maintenant, la démarche aussi de l'essai-erreur, hein. Ce ne sont pas des expériences de presse-bouton, donc difficiles à faire fonctionner, et ce qu'on retrouve dans des laboratoires, quand vous avez des prototypes d'expérience dans les laboratoires actuellement, les gens passent leur temps à se tromper, hein. On va faire 90 manips, il y en a 89 qui n'ont pas marché, on va essayer de comprendre pourquoi, et la 90e, on la réussira. Ouais.
Vous êtes en train de placer des
poids. Donc là, je suis en train de placer des masses pour envoyer sur le quartz. Hein. On ouvre, et puis on va compenser. Voilà. Voilà. Hein. Quand j'enlève la masse, hein, cette fois-ci, je fais un delta M, je provoque une force. Le courant qui allait vers la droite, eh bien, quand j'enlève ma masse, il va vers la gauche. Et en fait, je mesure le temps, la mesure de radioactivité revient à une mesure de temps, je mesure le temps que met le spot à revenir à sa position initiale. Alors, cette expérience est quand même extrêmement rare, hein. Il y en a actuellement trois en France, hein. Il y a eu la première qui est à l'École supérieure de chimie, qui a été montée il y a moins d'une dizaine d'années, donc là où les Curie ont fait leur première expérience. La deuxième est montée au musée Curie, à Paris, depuis quelques années. Un très beau petit musée, d'ailleurs. Et puis, nous, on a mis 6 ans, en gros, entre trouver les instruments, les décrire, essayer de les réparer, trouver les personnes expertes pour les réparer. C'est Bernard Pigelet, un spécialiste parisien qui nous a reconstruit la manip. Et l'une des originalités de la manip de Rennes, c'est qu'on travaille sur l'appareil original. Donc là, on a eu la chance, quand on a fait notre inauguration, d'avoir la caution scientifique et intellectuelle des petits-fils de Pierre et Marie Curie, puisqu'on a eu le plaisir d'accueillir Pierre Joliot et Hélène Langevin, puis ainsi que Renaud Huyn, le directeur du musée Curie. Donc là, c'est quand même pas mal de reconnaissance pour le travail qu'on a pu faire ici. Je vais former un certain nombre de personnes pour faire ces expériences. Et puis, on pourra bien sûr accueillir des groupes, en particulier étudiants.
Alors justement, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que tout le monde pourrait s'en servir ?
Oui, bien sûr, c'est une expérience. C'est pas une expérience presse-bouton, donc il y a toute une formation autour, hein, extrêmement importante. Donc... Non, on va pas faire démagogie, tout le monde ne peut pas s'en servir, mais on va former un certain nombre de personnes, hein, à présenter cette manip. Hein.
Et ces personnes, une fois formées, que pourront-elles viser, espérer, attendre de cette machine-là, de cette expérience ?
Qu'est-ce qu'elles pourront ? Ben justement, d'une part, montrer l'aspect patrimonial, deuxièmement, l'aspect un peu... promoteur, le contexte historique de l'époque, l'aspect promoteur des idées des Curie, hein, qui est en fait assez caractéristique des scientifiques de la fin du 19e siècle, qui étaient des gens extrêmement cultivés dans multi-domaines, puisque là, vous voyez, je vous ai parlé à la fois de la piézoélectricité, de la construction d'appareils, de start-up, radioactivité, vous voyez, donc on avait à l'époque des gens qui avaient une multiculture scientifique, qui fait qu'ils découvraient un phénomène à un moment, ils avaient, 10 ou 15 ans après, ils allaient l'appliquer ou essayer de l'appliquer ailleurs. Donc oui, il y a toute cette démarche. Et puis alors, ce sur quoi on insiste aussi, sur l'intérêt des appareils du 19e siècle, c'est que ce sont des appareils sensibles, Hein, vous voyez, la mesure, on a fait une mesure, c'est un spot qui se déplace sur une règle, et l'appareil de mesure, ce sont les yeux. Donc, les appareils du 19e siècle sont sensibles. On mesurait avec l'œil ou avec l'oreille, par exemple en acoustique. Les chimistes et les pharmaciens sentaient, goûtaient. Donc, du point de vue pédagogique, c'est extrêmement intéressant par rapport à des manips, bien sûr, bien plus sensibles, bien plus performantes que l'on peut faire maintenant, mais avec des boîtes grises. Maintenant, vous allez en laboratoire ou en simulation, vous allez avoir un écran, on va vous dire telle boîte grise va-t-elle faire telle mesure, vous êtes obligé de le croire sur parole. Donc c'est souvent plus difficile à expliquer des phénomènes scientifiques qu'avec ce genre d'appareil.
Quel impact pourrait avoir une expérience comme celle-ci sur notre vie de tous les jours ?
Eh bien, moi je dirais que c'est surtout une démarche du type culturel, c'est-à-dire que c'est montrer qu'avec des appareils anciens, d'une part, on peut faire des mesures très précises. Vous voyez, on a l'impression que c'est uniquement avec des appareils très modernes qu'on peut faire des mesures très précises, avec cette manip. Pierre et Marie Curie mesuraient des courants électriques qui correspondent à 1000 électrons. 1000 électrons, c'est infinitésimal. Donc on pouvait mesurer avec des piles, avec une règle. Vous voyez, la manip, elle est physiquement extrêmement simple. On pouvait avoir des mesures très très précises, déjà à l'époque. Et que deuxièmement, l'intérêt de conservation du patrimoine, dans une démarche historique, pour expliquer la démarche scientifique, et puis aussi replacer les recherches, les universités, les laboratoires, dans leur passé. Hein. Les grandes universités, c'est un peu la faiblesse des universités françaises, on oublie assez facilement d'où on vient, hein. Alors que vous prenez les universités anglo-saxonnes, moi j'étais à Harvard, ou j'étais au MIT à Boston, eh bien, les collections, l'histoire de ces grandes institutions, c'est extrêmement important, hein, y compris pour les étudiants, pour les thésards. Par contre, on travaille beaucoup aussi, on communique beaucoup sur l'ensemble des collections de RENA. On est maintenant, sans faire trop de gonflettes, bien reconnu au niveau national, on travaille avec le Musée des Arts et Métiers, et au niveau international, on va dans les réunions internationales présenter nos collections, etc.
D'accord, je crois que c'est tout. Je crois qu'on va ranger.
Voilà. Merci beaucoup. Voilà, un peu. Alors, on essaiera de la refaire bien, parce que là, j'ai des problèmes d'humidité. Il va falloir régler. Mais voyez, donc...
On va rester avec le petit point rouge à 22-23.
Oui. Non, ce qui est aussi intéressant dans ce qui est présenté dans la galerie de géologie, c'est l'ensemble des appareils. On a d'autres vitrines, hein, où on présente d'autres appareils. Par exemple, il y a une balance extrêmement précise, une balance qui a été construite par les Curie. Vous voyez, on pense que les Curie, c'est égal radioactivité, mais je vous ai parlé de piézoélectricité, je vous ai parlé de start-up, je vous ai parlé de balance. Ils ont vraiment conçu un certain nombre d'instruments très différents. Hein. Et Pierre Curie a travaillé sur le magnétisme aussi, donc a fait de la théorie de la symétrie, par exemple, il a beaucoup travaillé sur la théorie. Et donc c'était des gens qui étaient, on va dire, multicartes. On va éteindre le laser. Alors, la seule tricherie, c'est le laser, hein, par rapport à l'expérience ancienne, c'est le laser. Donc on ferme une vitrine. On va essayer aussi de remonter un peu dans l'avenir. On a d'autres appareils dans nos galeries d'instruments scientifiques. La collection est visitable. Et on a aussi une démarche qui est d'essayer de faire refonctionner les appareils anciens, même si ce sont des prototypes, parce qu'il y a un aspect pédagogique extrêmement intéressant. C'est un peu ce que je vous ai expliqué. Et donc, on a d'autres appareils qu'on va essayer de faire fonctionner. Voilà. Tac.
Ce numéro du Labomatique s'achève. Nous remercions chaleureusement M. Dominique Bernard, maître de conférence à l'Université Rennes 1, d'avoir réédité pour nous, au micro de Radio Campus Rennes, l'expérience de la piézoélectricité. Vous pouvez vous-même venir apprécier cette expérience en visitant le musée de géologie situé sur le campus de Beaulieu. Il vous suffit pour cela de contacter Madame Julie Prisère, assistante des collections scientifiques de Rennes 1, au 02 23 23 70 38. Sachez que le Labomatique est disponible en réécoute sur le site radiocampusrennes.fr. A bientôt, et n'oubliez pas de rester curieux.